Bonsoir. En attendant Macron, quatrième allocution solennelle depuis le début de la crise. Dans moins d'une heure, le président de la République apportera des précisions sur la troisième étape du déconfinement. Précisions très attendues dans les écoles et par les restaurateurs d'Île-de-France notamment. Nous entendrons l'un de leurs représentants, le chef de l'État, qui devrait aussi s'exprimer sur les accusations de violence et de racisme visant les forces de l'ordre, auxquelles il doit apporter son soutien, répète la droite et l'extrême droite. Le Rassemblement National demande à nouveau le départ de Christophe Castaner. Une nouvelle affaire qui fait scandale aux États-Unis. Trois semaines après la mort de George Floyd, un autre homme noir a été abattu par un policier à Atlanta, cette fois sans raison suffisante. En apparence, la chef de la police a démissionné. Dans ce journal également, la campagne du second tour des municipales qui s'ouvre demain dans des conditions évidemment très particulières. Des matchs de rugby qui font le plein de supporters en Nouvelle-Zélande, premier pays du monde à rouvrir ses stades. Le temps toujours instable dans la moitié ouest demain, nous dira Jean-Michel Golinski. Et puis bien sûr, à 19h20, le téléphone sonne avec vous, Claire Servageant.
Voilà, un téléphone sonne consacré ce soir à la saison touristique et à nos vacances d'été en France ou à l'étranger. Grâce à la réouverture progressive des frontières, on vous pose la question. 01 45 24 7000.
France Inter.
Le débat sur les violences policières et le racisme d'une part, le déconfinement d'autre part. On attend ce soir dans moins d'une heure l'allocution solennelle d'Emmanuel Macron, la quatrième depuis le début de la crise sanitaire, à suivre notamment bien sûr sur France Inter. Le chef de l'État, qui avait promis il y a deux mois de se réinventer, tracera peut-être des perspectives pour les deux dernières années du quinquennat. Mais c'est bien d'abord sur la troisième étape du déconfinement qu'il est attendu, Cyril Gradiani, notamment attendu par les restaurateurs de l'Île-de-France et par les enseignants.
En effet, en retrait ces dernières semaines, Emmanuel Macron doit d'abord s'exprimer sur les sujets d'urgence liés à la crise. Nouvelle étape, mais peut-être pas d'accélération brutale, confié il y a quelques minutes l'entourage du chef de l'État, qui pourrait donc doucher les espoirs de ceux qui aimeraient en finir avant le 22 juin. Je veux penser notamment à la zone verte et à l'Île-de-France. Emmanuel Macron, ce soir, veut faire un premier bilan de sa gestion, montrer que les défis sont légion, mais que la France a le socle pour s'en sortir, explique un de ses conseillers de l'ombre.
Alors, on parlait des écoles, restez là, Cyril. On l'a dit, une grande partie des directeurs d'établissements, des enseignants et des parents d'élèves attendent, espèrent un assouplissement des consignes sanitaires. Et c'est ce que confirme ces témoignages recueillis à Chambéry par Marianne Niotis.
Je pense qu'il est grand temps qu'on reprenne un cours normal des choses. J'ai cru voir que le périscolaire allait rouvrir, mais avec des contraintes horaires, même pour les enfants. Il faut amener la gourde, ils peuvent pas jouer comme ils avaient l'habitude.
Je suis pour la réintégration de tous les élèves. Moi, je pense que ça fait des discriminations entre les enfants. Et puis les enfants, ça leur met une espèce d'angoisse. Est-ce que je vais à l'école? Est-ce que je vais pas à l'école? Donc je suis pour, en fait, tous traiter de la même façon, en fait.
Moi, par rapport à mon travail, ça a créé des difficultés, mais du coup, ils me l'ont pris à 4 jours. Par contre, ça aurait été très problématique s'ils ne l'avaient pas pris à temps complet. Mais par contre, c'est vrai que ce serait bien qu'ils reprennent pour tout le monde et puis pour les cours parce qu'ils ne font pas le programme comme il faut.
C'est bientôt la fin de l'année, donc maintenant ils sont habitués, ils ne sont pas beaucoup, il y en a qui sont restés à la maison. C'est pas trop grave si ça continue comme ça.
Voilà pour les écoles. À propos des cafés-restaurants de l'Île-de-France, dont seules les terrasses ont été rouvertes, c'est peut-être la demande la plus pressante, la possibilité de reprendre une activité normale qui ne le sera pas tout à fait, puisqu'il faudra respecter de toute façon les consignes sanitaires. Mais après 3 mois de fermeture, ce serait pour eux une vraie bouée de sauvetage, comme l'explique Benoît Nicolai, patron de restaurant dans le 18e arrondissement de Paris. Il est au micro de Boris Allier.
On espère une réouverture des restaurants lundi. Après, bon, ça nous prendrait un peu de cours, comme à chaque fois. On est quand même en train de chacun faire des travaux, de prévoir quelques trucs. Il nous faut des tables, des chaises supplémentaires. Ça peut paraître bête, mais ça demande un peu d'organisation. Et on aurait aimé être prévenu un peu à l'avance. Alors maintenant, si c'est demain, on sera quand même content. Et si c'est vendredi, ça nous laissera aussi le temps de nous organiser. Donc, dans tous les cas, c'est positif. Là, avec la contre-terrasse et les mesures de la mairie de Paris, on est à 50% de notre capacité. Donc, pouvoir travailler au moins à l'intérieur, sachant que les conditions météo sont compliquées, ça nous aiderait beaucoup. De toute façon, là, on est au point où une semaine, un jour, une demi-journée, tout est important. Donc, aujourd'hui, on peut pas se permettre de perdre ne serait-ce que 1, 5, 10% de ce qu'on fait. Donc, oui, c'est important.
C'est important et l'UMI, principal syndicat des cafetiers-restaurateurs réclame une ouverture immédiate, sans attendre le 22 juin, date initialement prévue. Alors plus vite on déconfinera, mieux ce sera. C'est aussi ce que disait ce matin le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui veut accélérer la reprise du travail. Attention à ne pas refaire une politique budgétaire qui sert le kiki des travailleurs, prévient de son côté Laurent Berger, qui demande au nom de la CFDT un plan de relance écologique et sociale, mais pas sûr qu'à ce sujet le président s'avance beaucoup ce soir. Ce qui paraît plus sûr en revanche, Cyril Graziani, c'est qu'Emmanuel Macron s'exprime sur le malaise des forces de l'ordre, mis en cause par les manifestants du comité Adama Traoré, et qui s'exprime plus globalement sur les accusations de racisme portées contre la police.
Le chef de l'État est bousculé par un nouveau front inattendu au lendemain de la manifestation partout en France du collectif Adama Traoré. Le sujet ne sera pas sous-traité, promet un de ses proches, surtout que cette semaine en petit comité, le président s'était inquiété. Il ne faut pas perdre la jeunesse, a-t-il notamment confié. Emmanuel Macron se projette vers l'avenir, sur l'après-Covid. Il va commencer à lever le voile sur les deux dernières années de son quinquennat. C'est ce que son entourage appelle la nouvelle ère. Le président avait promis qu'il allait se réinventer. Et je vais vous faire une confidence. Toute la semaine, les proches d'Emmanuel Macron ont répété à tue-tête, c'est une allocution pour prendre de la hauteur, rien de fracassant à attendre. Et à force de le dire, eh bien, on en vient à douter. Et si le président renversait la table, montrait à nouveau qu'il est le maître des horloges, car à moins de 2 ans de la présidentielle, pour lui, le temps presse.
Réponse donc à 20h, allocution à suivre notamment sur France Inter. On l'a dit, les syndicats de police déçus par le ministre de l'Intérieur ont demandé à être reçus par Emmanuel Macron. Sur ce sujet, le chef de l'État doit effectivement se ressaisir, estime de son côté Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui lui demande de faire respecter l'État de droit, comme l'a dit aussi Nicolas Bay ce midi sur France Inter. Pour l'eurodéputé Rassemblement National, les policiers ont été abandonnés en race campagne par le gouvernement, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'est plus à sa place.
Aujourd'hui, on a une situation de crise. Ceux qui sont chargés de l'ordre public en France ne supportent plus leur ministre de tutelle qui s'est très mal comporté à leur égard. Donc la première décision que doit prendre Emmanuel Macron, s'il veut restaurer, assurer l'ordre et la loi dans notre pays, eh bien c'est de commencer par remplacer son ministre de l'Intérieur. Bon. Ensuite, qu'on donne les moyens à la police de faire son travail dans de bonnes conditions, et surtout qu'on n'aboutisse pas dans le discours médiatique et dans le discours des responsables politiques à légitimer la remise en cause de la loi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ordre est balayé, les lois, et donc les lois de la République, en l'occurrence, sont balayées simplement parce qu'il y a une petite minorité agissante qui s'exprime. Voilà. Donc, le rôle du président de la République, garant de l'unité nationale, eh bien, c'est de mettre fin à cette dérive.
Nicolas Bay dans Questions politiques sur France Inter avec Ali Badou. C'est dans ce contexte que s'ouvre demain la campagne officielle du second tour des municipales, dans des conditions évidemment très particulières, sans réunion publique ni rassemblement. Les candidats peuvent aller au contact du public, mais en gardant le masque, au risque de ne pas toujours être reconnu d'ailleurs. Mais c'est toujours mieux et plus convivial que les réseaux sociaux. Illustration sur un marché de Strasbourg ce matin, Corinne Fugler.
Les soutiens de la liste de droite Fontanel Helvétaire sont devant la pharmacie. Ceux de la socialiste Catherine Trottmann tractent près du fleuriste. Un peu plus loin, l'écologiste Jeanne Barseguian a ôté son masque pour goûter une pastèque.
Les personnes sont contentes de ressortir, elles ont envie d'échanger. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, elles ont envie de parler de politique et de l'avenir de leur ville. Et moi j'ai la bonne surprise déjà qu'on soit reconnus avec le masque et qu'on arrive quand même à avoir de très beaux échanges sur le terrain.
Évidemment, les électeurs s'intéressent aux accords et désaccords de l'entre-deux-tours.
Il y a pas mal de questions sur la non-fusion avec la liste socialiste et aussi avec la fusion de Véter et Fontanel. Donc la première question qu'on me pose, c'est généralement « mais est-ce que c'est encore possible ?» Donc la réponse est oui. Moi, je ne crois pas à ces calculs qui consistent à dire « les voix s'additionnent, voilà, on fait un accord de complaisance au dernier moment et les électeurs suivent ». Je n'y crois pas du tout.
Pas de meeting cette année, mais pour toucher les indécis, il y a aussi le numérique et les rencontres informelles.
On peut se voir en petit comité, on peut être présent dans la ville, aller dans les commerces, se poser dans les terrasses, parler aux habitants dans la rue. C'est ce qu'on fait, donc c'est multiplier les endroits où on est dans la ville, et la visibilité et les occasions d'échange. Mais le numérique, évidemment, vient nous donner un coup de pouce.
Et le second tour, ce sera dans 2 semaines, le 28 juin.
Et pour l'instant, il est 19h09 et vous écoutez le journal d'Yves Decamp.
Après George Floyd, Richard Brooks, aux États-Unis, en plein mouvement Black Lives Matter, une nouvelle affaire qui pourrait encore exacerber les tensions. Encore un homme noir abattu par un policier qui ne semblait pourtant pas en danger. Les images semblent parler d'elles-mêmes. Le suspect s'était juste assoupi au volant de sa voiture sur l'accès d'un restaurant drive. Mais il a pris la fuite au moment de son interpellation après s'être saisi du taser de l'un des policiers qui a fait feu. De façon inconsidérée, c'est en tout cas ce qu'a semblé considérer la chef de la police d'Atlanta qui a démissionné. Le restaurant sur le parking duquel se sont déroulés les faits a été incendié dans la nuit. Bref, l'émotion et les tensions sont à leur comble dans cette ville d'Atlanta comme partout ailleurs dans le pays. Loïc Loury nous appelle de New York.
Un officier limogé, un second renvoyé à des tâches administratives, une chef de la police démissionnaire, le tout en à peine 24 heures, presque 3 semaines après la mort de George Floyd. Le cas Richard Brooks à Atlanta en Géorgie a été pris très au sérieux par les autorités. La maire de la ville, Kate Challenge-Bottoms, a réagi immédiatement. « Je ne crois pas, dit-elle, que cette situation nécessitait l'utilisation d'une force létale. Mais cette affaire illustre-t-elle pour autant un changement de ton plus général face au problème des violences policières, difficile à croire. Il y a d'abord bien sûr le contexte, l'onde de choc George Floyd qui aurait rendu toute inaction insupportable aux yeux des manifestants. Et Kate Challenge-Bottoms, par ailleurs pressentie comme possible colistière de Joe Biden à la présidentielle, avait, elle, déjà appelé à des actions drastiques. Et si des villes ou des États enfin ont pris des mesures ici ou là, au niveau fédéral, Donald Trump s'est surtout illustré par son silence. New York, Loïc Loury, France Inter.
Donald Trump qui reçoit ce soir un soutien inattendu, quoique dans cette situation délicate, celui de Vladimir Poutine, son homologue russe, dont une interview doit être diffusée tout à l'heure sur la télévision publique. Le président russe, tout en affichant sa sympathie à l'égard des Afro-Américains, y condamne la pagaille et les émeutes. Claude Brouillot à Moscou.
En prenant référence la lutte contre le coronavirus, qui s'appuie selon lui sur la force de la Russie multiethnique, Vladimir Poutine a délivré une lecture bien à lui de la situation aux États-Unis. Le président russe s'est efforcé avant tout de défendre son homologue Donald Trump, qui, dès le départ de son mandat, a dit Vladimir Poutine, a dû subir les attaques du camp démocrate.
Ce qui s'est passé, c'est l'expression d'une profonde crise interne. En fait, c'est la même chose que nous observons depuis longtemps, depuis l'arrivée au pouvoir du président sortant. Quand il a gagné de façon absolument évidente et d'une manière démocratique, les perdants ont commencé alors à inventer toutes sortes de fictions juste pour remettre en cause sa légitimité.
Référence à peine voilée de Vladimir Poutine concernant l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. L'analyse du maître du Kremlin sur la situation aux États-Unis, à 2 semaines d'un référendum qui peut lui ouvrir les portes du pouvoir jusqu'en 2036, a aussi certainement des vertus internes, et Vladimir Poutine de considérer que lorsque la lutte pour l'égalité, je cite, se transforme en pagaille et en émeute, il n'y a rien de bon à en attendre. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Vladimir Poutine qui n'oublie pas de tacler le système américain sur la gestion de la crise sanitaire. Quand la Russie s'en sort avec des pertes minimes aux États-Unis, dit-il, des intérêts partisans entravent le président dans son action, des gouverneurs notamment, qui ne suivent pas les directives de l'État central. En bref, à l'étranger, 44 décès supplémentaires en Italie ces dernières 24 heures. La décrue reste lente, avec encore près de 340 nouvelles contaminations. Plus de 100 morts ces dernières 24 heures également en Iran, où l'épidémie de Covid-19 repart. Le président Rouhani accuse ses concitoyens de ne pas suffisamment respecter les consignes sanitaires. Et puis en Chine, ce sont 57 nouveaux cas de contamination qui ont été enregistrés, notamment à Pékin, où plusieurs quartiers ont été reconfinés. En Europe, la France et plusieurs pays européens rouvrent leurs frontières à l'intérieur de l'espace Schengen ce soir à minuit, à l'exception notable de l'Espagne, qui attendra le week-end prochain, en avançant toutefois la date qui était fixée à l'origine au 1er juillet. L'ouverture des frontières, les vacances d'été en France ou à l'étranger, on y revient juste après ce journal dans le Téléphone Sonne. Au Qatar, rien à voir, c'est la Coupe du Monde de 2022 qui se prépare, comme on sait, et on sait aussi dans quelles conditions, parfois, comme le confirme encore une enquête d'Amnesty International, selon laquelle une centaine de travailleurs migrants employés sur le chantier de construction de l'un des stades n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. L'entreprise qatarienne qui les emploie reconnaît avoir eu des problèmes de trésorerie, mais pour ces salariés originaires d'Afrique ou d'Asie, les conséquences sont évidemment catastrophiques. Sabine Gagné d'Amnesty International avec Valérie Crovard.
Ce sont des gens qui ont déjà, à la base, dû énormément s'endetter pour pouvoir venir au Qatar. Parce que souvent, on leur fait miroiter des sommes importantes qu'ils pourraient gagner en travaillant au Qatar. Il faut savoir que les sommes qu'ils ont dû verser souvent à des agences de recrutement dans leur pays d'origine, ça peut aller entre 800 ou 1800 euros. Donc ce sont des gens déjà fortement endettés et qui envoient en temps normal beaucoup d'argent à leur famille. Donc les conséquences premières, eh bien, ce sont déjà le fait de ne pas pouvoir envoyer d'argent. Une autre des conséquences, c'est que l'employeur n'a pas renouvelé leur permis de séjour. Et ça a pour conséquence directe, en fait, un risque pour ces employés de se faire arrêter, puisque c'est extrêmement important d'avoir des papiers, des permis de séjour valides, et c'est l'employeur qui doit remplir ces permis de séjour. On aimerait que le Qatar force les entreprises sur son territoire à respecter véritablement les droits humains.
En attendant la Coupe du Monde, le foot, cette semaine, c'est la reprise de la Première Ligue anglaise, mercredi à huis clos, le championnat le plus suivi au monde et dont le retour est très attendu après 100 jours d'interruption par des millions de supporters de Londres à Pékin, en passant par Bombay. Ce week-end, c'est la Liga qui a repris, le Barça hier soir à Majorque, 4-0, ce soir le Real, et puis cet après-midi, le retour raté de l'Atlético Madrid, tenu en échec sur son terrain par Bilbao. Enfin, on n'oublie pas en France le départ confirmé d'Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, dont le départ a été officialisé par le directeur sportif Leonardo. Cavani était à Paris depuis 2013. En rugby, alors que les championnats reprennent également à huis clos en Europe, à l'exception là aussi du top 14, en rugby, l'autre exception, c'est en Nouvelle-Zélande le retour du public dans les stades, une première dans le monde. Et comme on pouvait s'y attendre, les tribunes ont partout été prises d'assaut. Vincent Pellegrini.
À cette époque de l'année se dispute dans l'hémisphère sud le Super Rugby, une compétition qui regroupe les meilleures équipes néo-zélandaises, sud-africaines, australiennes et une sélection argentine. En raison de l'épidémie de coronavirus, celle-ci a été interrompue, mais en Nouvelle-Zélande, pays globalement épargné et qui ne compte plus aucun malade, a débuté hier un championnat domestique réunissant 5 équipes. Sans aucune restriction concernant le public, les rassemblements sont de nouveau autorisés dans tout le pays. Après 3 mois de frustration, les supporters ont répondu présents. À Dunedin, 20 000 personnes ont suivi le match hier entre les Otago Highlanders et les Waikato Chiefs. Ce matin, le mythique Eden Park d'Auckland avait fait le plein, 43 000 spectateurs pour le choc entre l'équipe locale, les Blues, et les Wellington Hurricanes. Au terme d'un match spectaculaire, Auckland s'est imposé 30-20. Petite déception pour les fans des Blues. La star Dan Carter, 38 ans, de retour au pays après un exil en France et au Japon, n'a pas joué. Mais cela ne saurait tarder et ce retour devrait amplifier un peu plus l'engouement populaire autour de ce championnat.
Vincent Pellegrini. Et demain, tous les acteurs du rugby mondial ont rendez-vous pour une visioconférence XXL sur l'avenir de leur sport, avec à l'ordre du jour la révision des calendriers et l'éventuel alignement des hémisphères nord et sud.
Merci beaucoup pour ce journal, Yves Decamp.